Alex. Je voudrais commencer mon intervention par des mots de remerciement et de la part de Louise qui n'a pas pu faire le déplacement et de moi-même et de toute ma famille. Des remerciements auxquels nous joignons notre expression de reconnaissance. Reconnaissance à votre église, cette église ici à Zeebrugg, qui depuis notre passage en 2012, et vous aviez continué à nous soutenir. Vos prières nous ont accompagnés et votre soutien financier régulier nous a accompagnés. Je voudrais dire merci aux anciens de cette église et merci à tous ceux qui ont pris à cœur notre appel et depuis notre dernier passage. Et merci. Merci. Et je ne sais pas comment donc l'exprimer. S'il y avait d'autres mots plus forts pour dire le merci, et c'est ça que j'emploierai. Et donc, en Dula ou en Bobo, on dit Barka. Barka. Donc, et j'espère que cela donc exprime donc, cette reconnaissance. Et en signe symbolique, j'ai amené quelque chose du Burkina. C'est pas grand-chose, mais peut-être que vous pouvez l'accrocher quelque part dans un de vos murs, et donc ici à l'église, pour penser et continuer à penser au Burkina Faso. Et c'est un monsieur et puis son épouse avec un bébé au dos et puis un autre enfant assis par derrière. C'est une famille. Et je sais que vous portez notre famille à cœur. Et ce batik donc, qui parle aussi d'un village, vous portez donc le Burkina et dans vos cœurs, jusque dans les recoins où nous travaillons, les villages et autres. Et la dame, elle apporte donc quelque chose à manger ou à son mari. Donc, vous nous avez apporté à manger. Grâce à vous, nous avons pu être en bonne santé et pouvoir donc et continuer à travailler. Et j'ouvre une parenthèse aussi ici pour dire que vos prières et votre soutien a été parce que en temps, au mois d'avril, et je remets. Voilà. Merci. Okay. Et au mois d'avril et mai, Louise a été très malade en 2013. Et elle était, j'allais dire, vraiment presque à la porte du paradis. Oui, mais grâce à vos prières. Et nous, on était désespérés. Donc, les prières ont aidé. Et puis, les soins étaient assez élevés. Mais votre soutien financier est venu à point pour aider à prendre en charge ces soutiens, du moins encore, cette prise en charge médicale. Merci, merci encore, merci encore, et merci toujours. Amen. Et mon intervention, je vais le situer en deux temps. D'abord, donc, une exhortation à travers la parole de Dieu qui va nous permettre de situer également notre mission. Et notre mission que nous appelons le ministère de la mission intégrale. Donc, nous menons un ministère, mais c'est un ministère intégral. Donc, et nous voudrons, dans ce sens, donc, entrer dans cette vision avec vous et le partager avec vous et vous permettre, donc, quand vous priez, de savoir notre fardeau donc, et mieux le porter à cœur. Et je voudrais, à ce titre, lire avec vous le texte de Jean. Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Si quelqu'un a le texte, je vais vous faire participer par des lectures. L'évangile selon Jean chapitre 4, verset 35. qui voudrait lire le texte? Oui, allez-y.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson.
Amen. Oui, Jésus ici nous interpelle à lever les yeux et à regarder les champs qui blanchissent pour la moisson. Et le thème que je vous propose, c'est « Entrons dans la vision de Dieu concernant les nations ». Entrons dans la vision de Dieu concernant les nations. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans cette vision? Et il faut lever les yeux. Oui, comment est-ce que nous pouvons encore entrer dans cette vision? C'est de nous laisser imprégner par ces paroles que Jésus encore nous a adressées. Mais peut-être que pour nous amener à réfléchir, il est important de nous poser d'autres questions. À qui l'ordre est donné de lever les yeux? Chacun de nous peut répondre à cela et voir s'il est concerné par cet ordre. Et bien sûr, évidemment, et vous et moi, chacun de nous est concerné par cet ordre. Parce que Jésus l'a si bien dit dans Matthieu 28, « Allez partout dans le monde et prêchez et annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations et faites des disciples. » Il a aussi répété la même mission dans Marc au chapitre 16, verset 15. Pourquoi doit-on lever les yeux? C'est aussi une question importante qui nous est posée à vous et à moi. Pourquoi est-ce que je dois lever les yeux? Et si je vous invite à lire, peut-être à jeter un coup d'œil sur le texte de Joël 3, verset 13 et 14, où Joël déjà voyait ses nations, la moisson déjà mûre, déjà voyait la situation des nations. Et Joël invitait donc aussi à prendre conscience de la situation des nations. Et comment doit-on lever les yeux? Et c'est à cela encore que nous allons venir, donc par ce que je vais vous exposer, donc par ce qui va suivre. Oui, nous devons lever les yeux pour entrer dans la vision de Dieu concernant les nations. Jésus nous lance cet appel. Et c'est un impératif même qu'il nous donne. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix si nous sommes disciples de Jésus. Nous devons donc entrer dans la vision de Jésus. Et entrer dans une vision donc pour annoncer l'Évangile et tout l'Évangile. Et Jésus, dans son interpellation et dans son ministère même, et son ministère est un ministère holistique, que nous appelons aussi un ministère intégral. Parce que ce ministère a concerné encore tout l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Ou si vous voulez, le corps, l'âme et l'esprit. Quelles sont encore par où vous commencez, donc les trois choses donc, sont toujours concernées. Et Jésus a réalisé sa vision lui-même en entrant dans la mission que lui a confiée son Père. Parce que Dieu, notre Père, a aussi cette vision holistique donc, de l'être humain. Et il a envoyé Jésus, son Fils, qui a accepté de venir. Et dans sa mission, dans son accomplissement, lui aussi donc, nous donne le modèle d'une mission intégrale, d'une mission holistique. L'ordre nous est donné. Il est donné à tout chrétien. Marc 16, 16. L'ordre nous est donné à toi et à moi, à chacun d'entre nous. Et cet ordre concerne chacun d'entre nous. Et nous devons encore y répondre. Et Jésus nous donne le modèle. Et son ordre, dans Matthieu 28, donc, nous concerne. Et pour cela, l'état des nations doit nous imprégner. Et c'est pourquoi, quand je vois encore les images projetées sur la Jordanie. Et je m'en réjouis parce que je sais que vous priez pour les nations. Et d'ailleurs, donc, c'était avant-hier, nous avons prié ici, donc, dans une des salles, pour l'Église persécutée. Des prières ont été faites pour le Burkina, et pour la Centrafrique, et pour la Somalie, mais aussi pour la Syrie. Et j'ai été très encouragé de voir combien et comment vous portez donc, le monde qui souffre. Et je vois que votre église, est, en tout cas, est une église missionnaire, une église qui entre dans la vision de Dieu pour ceux qui souffrent. Notre Seigneur Jésus-Christ, en venant dans ce monde, donc, nous a montré donc, ce modèle d'une mission et d'un ministère intégral. Et c'est pourquoi, dans le texte de Luc 4, versets 18 et 19, qu'il serait intéressant de lire les paroles de Jésus. Et on voit donc dans ce texte que Jésus nous présente sa mission dans ce monde. Et cette mission est une mission intégrale. Et une mission, si vous voulez, pour ceux qui préfèrent le mot holistique. Qui est dans le texte?
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Amen. Oui, Jésus donne les différents aspects de sa mission. Et il parle de l'Esprit de Dieu, du Père qui est sur lui. Et vous et moi avons aussi reçu cet Esprit quand nous croyons en Jésus. Alors si nous avons cet Esprit en nous, nous entrons aussi dans la même mission. Et nous sommes donc une continuation donc, de ce ministère de Jésus. Jésus a prêché, il a enseigné, mais il nous a aussi envoyé. Et quand il nous envoie, c'est pour marcher dans ses pas, c'est pour agir donc, comme il agit, donc en suivant son modèle. Oui, il est facilement loin. Il commence par annoncer. Oui, annoncer une bonne nouvelle. Prêcher l'évangile, prêcher le royaume de Dieu. Mais pas seulement ça. Mais il dit aussi pour donner donc, le recouvrement, pour briser les chaînes de ceux qui sont en captifs, pour donner la délivrance, la libération, donc à ceux qui sont encore prisonniers. Et cette libération, cette délivrance, ça peut concerner encore plusieurs aspects de la vie d'un être humain. Il y en a qui sont captifs de la maladie, captifs donc de la pauvreté, captifs de la misère, captifs donc de situations diverses, de la guerre, de l'oppression et de tant d'autres choses. Et le chrétien doit se laisser interpeller par toute cette situation que vivent ses semblables, soit proche de lui ou loin de lui. Oui, c'est une mission qui me concerne et qui te concerne et qui nous concerne tous. Oui, nous avons là, dans cette vision de Jésus, notre Seigneur, une vision intégrale pour les nations, une description d'un évangile holistique. Oui, d'un évangile intégral. Tout l'évangile pour l'homme tout entier et aussi en tout lieu. En ce sens que notre mission que nous accomplissons ne se limite pas à notre localité, petite ou grande soit-elle, mais elle nous appelle à penser à l'être humain et à ceux qui sont ailleurs et qui sont donc dans les besoins pour l'âme, leur salut, mais aussi pour leur corps donc, et pour l'esprit. Donc, partout. Tout l'évangile pour l'homme tout entier et en tout lieu. C'est d'ailleurs pourquoi nous aussi, donc, dans l'une de nos devises, de notre mission, de notre ministère, nous disons que Dieu partage avec nous, partageons-nous aussi avec nos semblables. Oui, Dieu n'a-t-il pas partagé avec nous les merveilles de son royaume? Dieu n'a-t-il pas partagé avec nous ce salut que nous avons reçu et qui a coûté la vie de Jésus? Dieu n'a-t-il pas partagé avec nous, oui, d'autres grâces, d'autres privilèges. Et je sais ici, chez vous, en Europe, en France particulièrement, vous pouvez donc vous réjouir et rendre grâce à Dieu de toutes les bénédictions que vous avez. Vous avez la pluie en abondance, peut-être même trop en excès. Et nous, on en cherche. Et je disais que, mais si on peut donc vous donner un peu de notre soleil, et puis donc vous nous donnez donc un peu de votre pluie, ben, ce serait bien. Mais là, ça dépend de Dieu. Mais Ce qui dépend de nous, on peut au moins le faire. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire. Donc, dans ces échanges, donc, et entre nations, entre peuples, entre communautés, entre individus, donc, dans ces échanges, donc, de ce message de notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il nous appelle donc à partager. Oui, Dieu partage avec nous. Partageons-nous aussi avec nos semblables. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a décrit donc sa mission. Si nous pouvons encore aussi lire le texte, quelqu'un peut nous aider, ou notre frère José. C'est Osée ou c'est José? José, pardon, voilà. Et Matthieu 9, verset 35.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Amen. Oui, il parcourait du moins. Oui, les villes et les villages. Il ne s'est pas limité à un coin, à un lieu. Il parcourait. Oui, toi, moi, nous tous pouvons encore faire le pas. Le pas missionnaire. Le pas missionnaire peut se faire encore dans plusieurs sens. Ça se fait donc par la prière. Ça se fait par l'engagement de prier pour ceux qui sont sur le champ de mission. Pour ceux qui risquent leur vie pour annoncer l'évangile dans les milieux assez difficiles et où l'islam est en montée. À Burkina Faso, où je vis, l'islam et la population encore de cette ville est à 90% musulmane. C'est l'islam est installé là il y a très longtemps. Parce que donc, la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, les djoulas sont montés. C'est-à-dire, Bouy Lassou, ça veut dire que c'est la ville, c'était enfin le village donc, où habitent les bobos et les djoulas. Et les djoulas ont toujours été donc des musulmans. Des commerçants donc, qui partent donc passer par là avec leurs marchandises. Donc ainsi, l'islam s'est installé là dans cette ville très longtemps. En sorte que même sur le logo de la ville de Bouy Lassou, de la commune de Bouy Lassou, donc, on voit là la mosquée d'Ila Soba, qui est là dessinée. Et avec la mosquée d'Ila Soba, il y a donc d'Ila Soba avec la mosquée là, il y a aussi donc les silures qui sont là. Et les silures, donc, ça c'est un fleuve, voire un marigot sacré de la région. Donc pour dire à quel point le fétichisme et l'islam donc, se marient dans ce lieu-là, donc, et jusqu'à prendre encore place. Je l'ai dit donc, à la direction donc, de cette ville-là. Et moi, je prie très fort pour qu'un jour vienne, je sois maître de cette ville. Et que ce logo de la ville, où on voit la mosquée donc, sur tout papier administratif, les actes de naissance, tout document donc, que la mairie donne, que tu le veux ou non, tu vas voir la mosquée-là. Tu vas voir donc, ces cellules sacrées qui sont là. Donc, pour dire combien il est important de prier pour cette ville de Bouy Lassou, pour cette population, afin que l'évangile trouve place, que les hommes, les femmes, donc à tout point, dans toutes les sphères de la société, donc, puissent être touchés par l'évangile. Donc, Jésus partait partout. Il allait, il prêchait. Mais il ne prêchait pas seulement, il a dit aussi qu'il guérissait. Il guérissait. Donc, il s'est intéressé au corps de l'être humain. Donc, laissons-nous interpeller par ce ministère de Jésus-Christ qui est un ministère intégral, holistique. Oui, nous avons dans ce texte, je vais dire, tous les aspects de ce ministère. Il y a la théologie. Théologie pour enseigner, puisqu'il enseignait. Oui, il y a l'évangélisation donc, qui touche l'âme. Et la théologie touche l'intelligence. Mais il y a aussi donc le social, qui est dans ce ministère de Jésus. Et c'est pourquoi, si le ministère de Jésus était un ministère intégral, holistique, nous, est-ce que nous pouvons nous en passer? Est-ce que nous avons le droit de ne prendre qu'un aspect de ce ministère? Est-ce que nous avons le droit de nous limiter à un seul volet du ministère de Jésus? Prêcher, annoncer l'évangile, croire au Saint-Jésus sera sauvé, et puis laisser les gens aller. J'allais dire, donc, mourir donc, dans leur situation encore de pauvreté, de maladie, de guerre et autres sans nous en soucier, nous sommes interpellés aussi par les besoins, quels qu'ils soient. Donc l'Évangile, dans sa totalité, aux hommes, dans leur corps, pour leur âme et pour leur esprit. Donc, chers amis et chers frères, laissons-nous entrer et dans cette vision du Seigneur. Alors c'est pourquoi, levons les yeux, nous dit Jésus lui-même, et voyons les champs qui blanchissent. Laissons-nous pénétrer par cette vision de Jésus, la vision de la restauration des âmes perdues, qui est un des, j'allais dire donc le premier volet. Les âmes perdues. Jésus s'est intéressé à cela. Et nous aussi devons nous intéresser encore aux âmes perdues partout dans le monde entier. Soutenir les missionnaires. Et annoncer nous-mêmes, témoignons nous-mêmes dans notre lieu, dans notre contexte, dans notre travail, avec nos voisins. Trouvons les moyens quelconques pour parler de Jésus. Ça peut être la radio, ça peut être encore la presse écrite, ça peut être encore des tracts, ça peut être encore le contact. Et dans les bus, dans les trains, dans les TGV ou quoi je ne sais, en tout cas, tous les moyens sont propices à nous donc, de les transformer en opportunités donc, pour annoncer l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. Donc c'est pourquoi, et pour le savoir, et pour nous laisser pénétrer encore par cet état de la perdition des gens et la nécessité donc, de leur restauration, il est aussi important pour nous de savoir et de nous rappeler l'état initial. Comment Dieu a créé l'être humain avant? Quel était le plan de Dieu pour l'être humain? Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si on vous dit encore de vous rappeler encore cela, chacun peut dire encore, et avec nostalgie, ce que étaient Adam et Ève. Comment ils vivaient dans ce jardin d'Éden? Créés à l'image de Dieu. J'allais dire, comme des rois, voire comme des vice-rois, ayant la charge, la responsabilité de gérer ce que Dieu a créé, les autres créatures. Et c'était encore au-dessus donc des autres créatures. N'est-ce pas merveilleux, ce plan initial de Dieu pour l'être humain? Mais ce plan qu'est venu saper Satan, notre adversaire, et en nous plongeant, voire donc en plongeant Adam et Ève dans la déchéance et par conséquent toutes les générations qui ont suivi jusqu'à nous aujourd'hui et à nos enfants qui vont suivre. Et cette déchéance humaine se poursuit et c'est ça qui fait les difficultés, ça qui fait les problèmes, ça qui fait le mal, le péché. Jésus dans son ministère, certes, il a reconnu que l'être humain a de la valeur. Il a même loué cela. Mais en même temps, malgré encore cela, il a reconnu que l'être humain a aussi un mal en lui. Et c'est pourquoi il était nécessaire pour lui-même d'ailleurs de travailler, à enseigner, à prêcher, et aussi donc à donner sa vie pour sauver l'être humain. Donc c'est pourquoi, c'est vrai, nous pouvons donc louer l'être humain, c'est normal. D'ailleurs, donc, il faut qu'on encourage donc cela pour qu'on fasse des progrès. Mais il faut qu'on sache également que malgré nos progrès technologiques, quels que soient donc ces progrès, donc, nous restons des hommes et des femmes dans une déchéance. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la déchéance morale dans nos pays. Il n'y a qu'à voir même les lois qui sont votées aujourd'hui encore dans nos pays. Vous n'en direz pas, je pense que c'est en France, il y a déjà des lois qui ont été votées, qui ne font pas encore la joie donc, de nous chrétiens. Mais je ne voudrais pas encore en parler ici, mais vous le savez vous-même. Donc, mais il est important que nous voyons encore cet état initial et cette déchéance où nous allons pour nous rendre compte qu'il est important de tirer l'être humain, de l'arracher de cette situation pour le faire remonter donc dans le plan de Dieu en vue donc d'entrer dans la vision de Dieu et dans le plan de Dieu que Dieu avait donc préalable établi pour l'homme, pour la femme et pour l'être humain. Donc, si nous comprenons cela, donc nous pouvons donc entrer dans la vision de Dieu. Le temps ne nous permet pas de voir tous les textes qui parlent de la déchéance humaine. Jésus en parle et il décrit l'être humain Donc, et quand tu le vois décrire l'être humain, et dans, souvent même il parle encore de méchants que nous sommes. Vous voyez, c'est des mots forts pour dire à quel point nous sommes donc dans cette déchéance. Et Jésus, il a prêché pour répondre encore à tous ces besoins de l'être humain. Il a annoncé l'évangile dans son ensemble. Et nous suivons encore ces traces. Et ses apôtres aussi ont suivi les pas de Jésus dans l'annonce de l'évangile. Si nous jetons un coup d'œil sur le texte de Marc 6, versets 7 à 13, quand Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, et nous pouvons encore lire juste peut-être les versets 12 et 13, nous allons voir aussi que les apôtres ont annoncé l'évangile de manière intégrale. Vous pouvez venir.
Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.
Amen. Oui. Ils prêchaient la repentance. Ils ont prêché pour sauver l'âme. Prêcher la repentance. C'est vrai, aujourd'hui, les gens, quelquefois encore, ne veulent pas parler du péché, donc pour des raisons quelconques. Mais Jésus, il a parlé, il a touché le doigt la déchéance humaine. Et donc, et les apôtres ont suivi ses pas. Et ils ont aussi donc chassé les démons. Parce que l'être humain, dans cette déchéance, est sous la domination des esprits maléfiques qui influencent. Parce que c'est depuis la chute d'Adam et Ève, et même avant, donc, la chute encore de l'ange, vous m'excusez, prêtez le mot, l'archange, donc qui a chuté au ciel et qui a été chassé donc du ciel, donc pour parce qu'il a voulu encore se révolter contre Dieu. Depuis ce temps-là, donc les démons donc sont en vrac et influencent notre monde. Ils habitent partout, dans les mers, dans les forêts, dans les arbres. Et leur lieu de préférence, c'est le cœur de l'homme qu'ils veulent faire leur habitat. Leur habitat. Ça, ils aiment ça. C'est leur villa. Enfin, excusez-moi, nous, on dit les villas chez nous. Les belles maisons, là, on dit les villas. Voilà, quand les démons gagnent donc, le cœur de l'homme, c'est vraiment donc, c'est leur villa. C'est leur château. Donc, vos belles maisons, c'est comment on les appelle ? Les villas aussi. Voilà. Donc, les démons, ils aiment le cœur de l'homme. Ils veulent habiter là. Et c'est pourquoi, dans notre évangélisation, donc, nous devons prêcher, mais aussi donc, travailler pour la délivrance des personnes qui sont encore sous l'emprise du diable. Jésus, quand il a dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il a dit pour délivrer les captifs, donc ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc, c'est pourquoi notre ministère, encore doit aussi toucher donc cet aspect. Mais aussi, donc, les disciples ont guéri les malades. Guérir les malades, nous pouvons le faire par la prière. Mais nous pouvons aussi donc le faire par un engagement social, par la création des dispensaires, des hôpitaux, ou par le soutien quelconque aux gens de se prendre en charge et de se soigner. Oui, pour la restauration de l'être humain, il y a le plan de sauvetage divin. Ce plan de sauvetage divin, Jésus est venu pour ça. Jésus l'a accompli. Jésus a payé le prix nécessaire pour cela, à la croix. Il est mort à la croix pour nous sauver. Vous et moi, si nous sommes là ce matin, nous sommes de ceux-là qui avons bénéficié de ce plan de sauvetage. Parce que Jésus a accompli sa mission. La mission est quand Dieu a vu, le Père a vu, donc la déchéance humaine. Et il s'est dit, mais voilà l'être humain qu'il a créé, que j'ai créé à mon image. Voilà qu'est-ce qu'il est devenu. Mais je l'aime d'un amour éternel. Que faire? Mais pourtant, il sait que l'âme qui pêche mourra. Quoi faire pour le sauver? Il faut que Dieu lui-même donc prenne sur lui-même la condamnation, le jugement, parce que Dieu est juste. Et le Fils a dit, me voici. Je suis l'agneau qui va venir pour ôter le péché de l'humanité. Jésus a répondu. Il est venu. Il a sauvé donc, l'être humain. Maintenant, à nous, le rôle, la mission, la responsabilité donc, nous revient de poursuivre dans cette mission, d'annoncer à ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce plan de sauvetage, de les amener à connaître le Seigneur Jésus et à se confier à lui. D'où l'ordre missionnaire de Matthieu 28. Allez, oui, annoncez la bonne nouvelle et sauvez les âmes. Faites-les des disciples. Et maintenant, je voudrais encore passer à l'autre aspect. Quand nous voyons la déchéance humaine, donc, cela donc, nous amène également, donc, pas seulement donc, à résoudre ce problème, mais aussi donc, à penser à sa restauration physique et sociale. Parce que comment est-ce qu'on va annoncer l'évangile à quelqu'un? Il est sauvé. Et il a cru en Jésus. Et puis après, il est là, ou elle est là, cette personne, dans une situation où elle ne peut pas donc s'en sortir. Elle manque à manger, elle est malade, affamée, ou d'autres problèmes. Et qu'elle se présente à vous, pasteur, ancien d'église, frères et sœurs, et que vous ne pouviez pas encore, en tout cas, lui répondre à ce niveau-là. Il va se dire, mais votre Jésus, s'intéresse-t-il seulement à mon âme? A-t-il oublié que mon âme est dans un corps? Ou qu'est-ce qu'il voit? Mais si je vous demande encore, quand vous voyez une personne, qu'est-ce que vous voyez d'abord? Est-ce que c'est l'âme qu'on voit ou c'est le corps qu'on voit? Naturellement, c'est le corps. Alors, c'est le corps que nous voyons. Donc, il est important aussi que nous nous intéressions encore à ces corps. Parce que le corps, et du moins donc, l'âme est dans un corps. C'est pourquoi donc, le ministère de l'Évangile intégral donc, doit s'intéresser donc, aux deux aspects. Donc, le corps donc, est de l'être humain. Parce que donc, il faut donc sauver cela également. Donc, les yeux de Jésus n'étaient pas donc indifférents aux besoins physiques et sociaux des gens de ses contemporains. C'est pourquoi Jésus a nourri la foule affamée. Oui, il a nourri la foule affamée. Et même quand les disciples ont dit, non, la foule qui est là, on ne peut pas encore nourrir avec quelques pains et quelques poissons. Mais Jésus a dit, nourrissez-les, donnez-leur à manger. Et il a répondu, il a multiplié. C'est vrai, peut-être que nous n'allons pas encore multiplier, et nous n'avons pas peut-être la capacité d'ailleurs, à moins que Dieu nous donne encore de nouveau un miracle de ce genre, mais ne pouvons pas le multiplier. Chacun en apportera un peu, pour le soutien, pour répondre aux affamés, pour nourrir la foule. Oui, nous pouvons donc arriver à répondre. À répondre. Merci. Mais il arrive que les gens, quelquefois, pour ne pas répondre à cet appel-là, se disent, mais qu'est-ce que ma petite goutte dans la mer? Elle est insignifiante. Mais aussi, sachez que ce sont donc des petites gouttes qui font la mer. Amen. Non, c'est pourquoi votre petite goutte, quelle qu'elle soit, donc, est importante. Voilà que notre sœur m'a amené encore un verre d'eau. Amen. Et ça fait du bien. Et Jésus a dit, celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits, qu'est-ce qu'il fera? Pardon? Comme si on lui a donné. C'est à lui qu'on l'a donné. Donc, c'est important. Donc, c'est pourquoi il est important pour vous et moi donc, d'entrer dans cette vision de Jésus donc, et voir les pratiques que Jésus a faites. Comment Jésus donc, a pratiqué donc, cela? Est-ce que José peut encore revenir? On va voir quelques pratiques de Jésus. Donc, quand, c'est vrai, dans Luc, il a donné encore la mission qu'il a faite, il a décrit. Mais dans Matthieu, par exemple, donc, Matthieu 4, verset 23, et Matthieu 9, 35.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Amen. Ça, on a déjà lu. Donc, vous lisez maintenant le 9:35.
Matthieu.
Oui, Matthieu toujours.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
C'est tellement important que les synoptiques reprennent. Et dans Actes 10, 38, donc Matthieu donc, revient là-dessus donc, deux fois déjà.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Amen. Voilà, donc, les apôtres en étaient conscients de ce ministère intégral de Jésus. Et ils l'ont dit et répété à maintes reprises et ils l'ont donc aussi réaffirmé donc dans le livre des Actes. Et lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller questionner Jésus, lorsque Jean-Baptiste était dans la prison, Jésus il a décrit à nouveau donc, à ses envoyés ce ministère holistique. Dans Matthieu 11, verset 5. Quelqu'un peut-être peut donner sa voix aussi à José. Ok, mais si José il trouve vite les textes, c'est bien. Matthieu 5, 11.
Matthieu 5.
Oui.
Matthieu 5, 11.
Matthieu 11, verset 5. M'excusez.
Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Amen. Et même là, Jésus commence par le corps. Et les besoins du corps et termine par ceux de l'esprit, de l'âme. La bonne nouvelle est annoncée donc. Et vous voyez, toujours donc un ministère intégral était donc le ministère de Jésus. Alors, je voudrais donc, pour permettre encore de voir donc les images, raccourcir et m'arrêter là, donc pour lancer cet appel à entrer dans cette vision du Seigneur, à lever les yeux et à voir les champs qui blanchissent, la moisson qui est prête et à annoncer la bonne nouvelle, à s'intéresser aux besoins encore des personnes auxquelles nous annonçons l'Évangile, mais à ne pas aussi oublier les besoins physiques quand nous annonçons l'Évangile. Et d'ailleurs, l'apôtre, auteur de l'Épître aux Hébreux, a ajouté « Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dans Hébreux 13, verset 16. « N'oublie pas, parce que nous aimons souvent oublier. » Nous disons souvent, il y a tellement de besoins, et par finir, on se dit, ben non, je ne fais rien. Le Seigneur nous interpelle. N'oublie pas. Ne baisse pas les bras. Lève-toi et entre dans la vision de Dieu pour les nations. Par un engagement social et par un engagement à l'évangélisation, par un engagement spirituel de la prière, oui, par un engagement à tout point de vue. L'Église entière est concernée. Chaque individu chrétien également donc, est concerné parce que c'est notre identité de chrétien. Donc, si on est chrétien, donc, on ne peut pas faire autrement que de marcher dans les pas de Jésus et d'agir comme il a agi. Guérir, nourrir, oui, et montrer ainsi l'amour vraie et véritable d'une manière concrète. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous allons passer aux images. Et les images, nous allons les faire défiler. Donc, mais les images donc, sont, les photos, donc, sont quelques photos donc, de notre ministère intégral. Vous savez que dans Michée 6, verset 8, qui est aussi un texte du défi.